Sophie Rohni, bonjour.
Bonjour.
Merci d'accepter de répondre à nos questions sur Radio Judaïka dans le cadre du rendez-vous politique. Vous êtes députée fédérale DEFI et aujourd'hui, eh bien, avec vous, on va faire un petit tour de l'actualité politique belge, mais aussi internationale. Alors, à commencer, si vous le voulez bien, par revenir sur la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars, c'était la semaine dernière, et pas seulement le 8 mars, hein, finalement, mais durant toute la semaine, vous avez été très active dans des causes concernant les femmes, hein, à commencer par le droit à l'avortement sûr et légal. On sait bien évidemment qu'il y a encore des pays, malheureusement, tristement, qui interdisent l'interruption volontaire de grossesse. Alors en Belgique, c'est pas le cas. Cependant, eh bien, l'avortement n'est pas totalement dépénalisé ici. C'est un fait qui vous importe.
Oui, bien sûr, mais écoutez, il y a quand même eu un fameux rebondissement dans ce dossier vendredi dernier, donc à la fin de cette fameuse semaine pour les droits des femmes, à savoir que le fameux comité d'experts qui avait été mandaté par le gouvernement pour évaluer la loi IVG a rendu son rapport, en tout cas une synthèse nous a été communiquée, et ce rapport, il est limpide. Et il va exactement dans le même sens qu'une proposition de loi que mon parti DEFI portait avec sept autres partis progressistes, à savoir qu'il faut aujourd'hui et dépénaliser totalement l'avortement et assouplir les conditions légales pour pouvoir avorter, puisqu'aujourd'hui, dès le moment où une femme qui se voit confrontée à une grossesse non désirée tardive, et par exemple si elle doit avorter à 13 semaines au lieu de 12, eh bien la loi prévoit théoriquement, mais tout de même c'est assez grave, des peines de prison pour elle et son médecin. Et donc c'est une situation qui est intenable de criminaliser encore aujourd'hui en 2023 en Belgique des femmes qui simplement veulent disposer librement de leur corps. Et donc, ce rapport va dans ce sens-là. Donc, c'est une excellente nouvelle. Maintenant, j'ai peur que le gouvernement, ne suive pas le pas, puisque l'accord de gouvernement est très clair en ce sens qu'il dit que tant qu'il n'y aura pas de consensus au sein des sept partis de la Vivaldi à ce sujet, autrement dit, tant que le CDNV continuera de poser son veto à ce sujet, eh bien, le texte que nous portons avec ces sept autres partis ne pourra pas être voté. Et donc, on voit bien qu'on reste confronté au péché originel de ce gouvernement, à savoir d'avoir cédé au chantage qui a été fait sur le dos des droits des femmes par le CDNV. Donc, finalement, aujourd'hui, la balle est très clairement dans le camp du CDNV qui doit choisir son camp, à savoir est-ce qu'il va continuer à infantiliser, à criminaliser les femmes ou au contraire s'il va faire le choix de considérer les femmes comme des êtres libres et responsables.
Alors, toujours concernant les femmes et leurs droits, cette année pour le 8 mars, on a vu de réels élans de soutien aux femmes iraniennes et aux femmes afghanes aussi actuellement opprimées dans leur pays par des régimes répressifs, hein, les mollahs en Iran et les talibans en Afghanistan. En Iran, on assiste d'ailleurs à une révolution d'une ampleur aussi importante que celle de 1978-1979 depuis la mort tragique de Mahsa Amini en septembre 2022. Alors, que faisons-nous ici en Belgique pour soutenir ces femmes iraniennes? Et finalement, faisons-nous suffisamment, d'après vous?
Alors, effectivement, très clairement, la situation des femmes et des filles en Iran est dramatique et je tiens vraiment à saluer le courage et la détermination des femmes iraniennes qui a toujours existé finalement, mais c'est vrai que on a connu un fameux coup d'accélérateur avec le meurtre odieux de Mahsa Amini par la police des mœurs iraniennes. Et ce qui me fait peur, c'est que la répression des manifestantes et des manifestants qui réclament des droits pour les femmes, mais de manière plus générale, une démocratie enfin laïque en Iran, s'intensifie puisque on a constaté que ces derniers mois, en fait, plus de 1 000 écolières avaient été empoisonnées par le régime des mollahs. Et donc aujourd'hui, ce gouvernement iranien recourt à l'empoisonnement, gaz des enfants. C'est juste inacceptable. Et donc aujourd'hui, de manière très claire, le gouvernement belge doit assumer ses responsabilités d'asile. Et c'est d'ailleurs en ce sens que je plaide auprès du gouvernement fédéral pour pouvoir suspendre toute expulsion de demandeurs et de demandeuses demandeuse d'asile, je vais y arriver, qui provient d'Iran, en tout cas depuis le début des répressions, puisque aujourd'hui, très clairement, toute personne qui s'oppose à ce gouvernement risque la mort. Donc, il convient de les protéger. Et pour le reste, je pense qu'effectivement, on doit maintenir notre pression au niveau international, maintenir, voire renforcer nos sanctions à l'égard de ce gouvernement, faire en sorte aussi qu'il y ait une enquête internationale qui puisse faire toute la lumière sur ces répressions, aussi sur ces vagues d'empoisonnement. Je pense que c'est le minimum que l'on puisse faire pour pouvoir effectivement veiller au respect des droits des Iraniens, des Iraniennes, et aussi, je l'espère, arriver à ce que l'on parvienne à une transition démocratique. Finalement en Iran, puisque comme je l'ai dit, ce qui est réclamé aujourd'hui par les démocrates iraniens, c'est la fin pure et simple de ce régime théocratique et autoritaire.
Tout à fait, on voit des vrais soulèvements populaires en Iran. Et puis nous avons aussi notre compatriote, hein, finalement, Olivier Van de Castel, emprisonné depuis plus d'un an en Iran. Est-ce que vous avez le sentiment, avec la récente décision de la Cour constitutionnelle, qu'on a fait un pas dans finalement l'espoir, hein, si j'ose dire, de sa libération?
Écoutez, j'ai envie d'y croire. Malheureusement, ce traité de transfèrement pose un problème de principe, à savoir qu'il valide une pratique qui est inacceptable, à savoir la diplomatie des otages, à savoir que l'Iran, à sa guise, pourrait détenir un innocent belge pour pouvoir réclamer en échange la libération d'un criminel, comme c'est le cas ici du terroriste Assadi. Et au-delà de ça, la décision qui a été rendue, finalement, c'est un compromis. J'ai l'impression qu'il a essayé de contenter tout le monde, puisque la décision prévoit de manière très claire que dans le cas d'un transfert effectif qui serait réalisé, les familles des victimes devraient être informées pour pouvoir faire contrôler la légalité de ce transfert auprès du tribunal de première instance. Autrement dit, si ce tribunal venait à dire oui, ce traité n'est pas légal, c'est reparti pour un tour au niveau judiciaire avec des décisions en appel qui pourraient tomber donc très tardivement à un éventuel pourvoi en cassation. Et donc, à nouveau, on perdrait énormément de temps, on perdrait des mois en étant suspendu à cette décision judiciaire, alors on peut plus attendre des mois pour pouvoir trouver une solution et obtenir la libération de monsieur Van de Castel, puisqu'on le sait, sa santé se dégrade de jour en jour. C'est vraiment une question de jour pour pouvoir faire en sorte qu'on le libère avant qu'il ne soit trop tard. Et donc, pour moi, on fait une erreur que d'espérer une solution uniquement de par ce traité de transfèrement. Je pense que on doit absolument renforcer nos efforts au niveau diplomatique. On doit vraiment mutualiser nos efforts au niveau européen, notamment avec les États qui eux aussi sont victimes de cette diplomatie des otages. Et dans l'attente, et là aussi j'ai lancé un appel auprès de la ministre des Affaires étrangères qu'elle n'a pas entendu jusqu'ici, à savoir qu'elle se rende en Iran pour pouvoir voir Monsieur Van de Castel et aussi exiger qu'il puisse voir un médecin. Pour moi, c'est l'urgence aujourd'hui.
Oui, tout à fait. C'est l'urgence aujourd'hui. Alors, dans un tout autre sujet, en Belgique, bien le procès des attentats de Bruxelles du 22 mars 2016, il a commencé depuis quelques mois. On a assisté, on l'a vu, à quand même pas mal de problèmes, hein, notamment avec les fouilles des accusés, par conséquent, les accusés qui ne se présentent plus à l'audience. Et actuellement, eh bien, ce sont les parties civiles qui témoignent. La semaine dernière, on apprenait qu'au Parlement fédéral, la majorité a amendé le projet de loi relatif à l'indemnisation des victimes des attentats, mais aucun fonds public ne sera mis en place pour cela. Alors, finalement, concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Premièrement, et deuxièmement, qu'est-ce qu'on en pense chez DEFI?
Mais très clairement, et on le pointe depuis des années, c'est que le gouvernement ne tient pas compte de tout le travail qui a été réalisé par la commission d'enquête qui a été instituée après les attentats et qui demandait notamment de manière très claire un fonds de garantie et aussi un guichet unique, mais en particulier un fonds de garantie pour permettre à toutes les victimes directes et indirectes des attentats d'être correctement indemnisées et d'avoir un seul et même référent pour ce faire. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Il y a toute une série de victimes qui ne sont toujours pas indemnisées. Il y en a même qui ne pourront jamais être indemnisées parce qu'elles n'avaient pas connaissance de leurs droits, parce qu'elles ont introduit des dossiers pour être indemnisées trop tardivement. Et donc, finalement, on ne répond pas à leur réalité. Donc effectivement, c'est dramatique et on continue à plaider pour faire en sorte que les revendications, les demandes qui ont été d'ailleurs soutenues à l'unanimité par tous les partis puissent enfin être concrétisées dans l'intérêt de l'ensemble des victimes.
Alors une dernière question, Sophie Rohoni, on prend un peu de hauteur, mais c'est une question qui nous importe tout de même ici à Radio Judaïka, ça nous préoccupe même, on a envie de dire, hein, depuis décembre 2022, Israël a un nouveau gouvernement mené par son premier ministre, Binyamin Netanyahou. On voit qu'à l'heure actuelle, il y a des manifestations très fréquentes en Israël avec ce projet, hein, ce projet de réforme du système judiciaire et même au Parlement européen récemment. On en a même parlé de ce projet de réforme judiciaire en Israël qui semble un petit peu inquiéter la communauté internationale. Alors, est-ce que au niveau politique fédéral en Belgique, le gouvernement israélien, ça vous préoccupe?
Oui, bien sûr que ça nous préoccupe parce que déjà, c'est une zone du monde que l'on sait fragile. Et effectivement, même comme vous l'avez dit, la communauté internationale est inquiète et beaucoup de démocrates israéliens eux-mêmes sont inquiets. Je me souviens d'ailleurs des mots très forts de la présidente de la Cour suprême israélienne qui parlait de réformes qui sapent la démocratie. Je pense que ce sont des mots forts qui traduisent effectivement que ce gouvernement représente un danger pour les droits et libertés fondamentales des Israéliens comme des Palestiniens. Et donc, effectivement, on voit que, et d'ailleurs, les grands observateurs de cette zone nous le disent, c'est un gouvernement qui est le plus à droite de toute son histoire, avec des partis d'extrême droite et des partis ultra-orthodoxes. Donc c'était une coalition qui inquiète de par sa composition, mais qui inquiète aussi de par les mesures que cette coalition est en train aujourd'hui d'amorcer. Vous l'avez dit, cette réforme judiciaire, la politique annexionniste aussi inquiète beaucoup parce que plus on perdure dans cette politique, plus finalement on s'éloigne d'une solution de paix à deux États, comme d'autres démocrates israéliens auparavant, je pense à Monsieur Yitzhak Rabin, le portait, le plaidait. Donc effectivement, moi je suis inquiète parce qu'il ne s'agit pas ici de prendre parti pour Israël ou pour la Palestine, mais tout simplement de faire respecter les droits humains et de faire en sorte qu'Israël soit une démocratie comme les Israéliens le méritent tout simplement.
Merci beaucoup Sophie Rohoni d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Radio JDK. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes députée fédérale défi. Merci beaucoup pour vos éclairages. À très bientôt.
Merci à vous.